terror states.
Non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 116e émission. En cette dernière de la saison, jeudi 30 juin, je suis seul et Pascal Rullier est en intervention quelque part dans des montagnes en haut d'un pylône, allez savoir. Quoi qu'il en soit, ce sera eh bien, la revue de presse de l'April d'Emmanuel Charpentier et Luc Fievet, évidemment, qui ouvrira les hostilités. Il y sera question du Parti Socialiste, d'un hacker prêt pour la prison, de la ville de Genève qui fait marche arrière, de Google qui met son poids dans LibreOffice, des RMLL 2011 ou de data journalisme. Et puis ensuite, après une pause musicale que l'on devra pour toute cette 116e divergence numérique au groupe suédois Emerald Park qui nous chantera Oumé, Istanbul, Pasadena ou For Tomorrow, tout ça en licence Creative Commons by NCND 3.0. Eh bien, on sera au téléphone avec Emmanuel Jacquet qui nous parlera de la programmation des rencontres mondiales du logiciel libre 12e du nom qui se tiennent du 9 au 14 juillet. Et évidemment, Divergence FM sera dans la place dans le pool Radio RMLL. Plus de 250 conférences réparties dans 14 grands thèmes, plus de 70 associations au sein du village associatif, 2 jours de rencontres avec le plus grand public, place Brolier, le 9 juillet de 14 à 19h et le 10 de 10 à 18h, un festival des arts numériques sur le parvis de la faculté de droit, des personnalités telles que Richard Stallman, créateur du projet GNU et président de la FSF, la Free Software Foundation, Michi Choudhary, directeur des programmes internationaux au Software Freedom Law Center, et Jérémy Zimmerman, porte-parole de la Quadrature du Net, avec en prélude la première édition des rencontres mondiales décentralisées du logiciel libre, les RMLLD, à Saint-Joseph, à La Réunion, qui se tiennent du 1er au 3 juillet. On tentera avec Emmanuel Jacquet donc de dire un mot sur tout ça, ou en tout cas sur les rendez-vous les plus saillants. Et puis, c'est avec les différents agendas du libre que nous refermerons cette 116e divergence numérique, les dernières de la saison 8. Et nous n'oublierons pas non plus de saluer nos auditeurs du 93.9, bien évidemment, mais aussi du 104.1, du 103.3 ou du 102.0 à La Salle, dans le nord du département, et du 88.3 de CKIA, Québec, pour l'heure, les nouvelles du front.
Nouvelles du front.
Les nouvelles du front, ce sont Luc Fievet et Emmanuel Charpentier qui ont laissé traîner leurs claviers et leurs yeux sur PC Impact, Génération Nouvelle Technologie, 20 minutes online, Le Monde Informatique, Silicon FR ou OVNI.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 25 de l'année 2011. Salut Manu.
Salut Luc.
Petite forme aujourd'hui.
Et oui, une petite revue de presse, que 6 articles, mais bon, on fait avec ce qu'on a, c'est le début de l'été. Donc on va vous parler du PS.
J'ai décidé de proposer.
On va vous parler de la PS3 et d'un petit hacker qui risque d'aller en prison. Genève et le logiciel libre, Google et LibreOffice. On va parler des remeuleux rapidement.
Du 9 au 14 juillet 2000.
Et puis, un gros article sur le data journalisme.
Un premier article, PC Impact, le PS confirme l'abrogation des lois Hadopi et Lopsi.
De Neil Sagnas.
Alors bon, bah c'est la politique pure et dure, on est dans la campagne. Question à Martine Aubry qui donc s'est exprimée sur le sujet du numérique. Alors qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ça? Elle a parlé d'un plan qui consisterait à ce qu'il y ait du haut débit partout. Elle s'est engagée sur la question de la neutralité, sur le droit d'avoir une connexion.
Oui, un peu comme en Hollande peut-être, peut-être à passer la neutralité du net dans la Constitution un jour. Hein.
Ce serait beau, et à l'abrogation de l'OPSI et d'AFSI.
Et Hadopi, c'est ce qui est mis en avant, étant donné qu'Hadopi, oui, c'est le cheval de bataille. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'ils ressortent encore, et c'est très bien, la notion de licence globale. Oui.
Alors c'est moi qui me trompe, elle n'a pas parlé d'AFSI, cette loi qui est toujours en activité mais pas appliquée, Hadopi et Lopsi. Voilà, elle évoque la question de la licence globale sans la nommer vraiment.
Non, il est question d'une sorte de taxe qui serait prélevée sur les internautes et après, faut voir exactement comment, et qui serait redistribuée aux artistes. Donc peut-être que ça squeezerait les éditeurs et les intermédiaires. Donc moi, c'est une licence globale au sens noble du terme. Bah, j'espère que ça va se tenir. Pour la petite remarque, il y a eu d'autres articles qui étaient, beaucoup d'articles sont sortis en fait sur le PS et Martine Aubry, mais aussi sur le parti de gauche qui parle de numérique et d'abroger aussi ces lois débiles et de passer sur des mécanismes un peu plus intelligents.
Article suivant, génération nouvelle technologie, PS3, un hacker prêt pour la prison, reste fier de ses actes. Un article par Nathalie M.
Ça fait mal au cœur, c'est un Allemand, alors c'est quoi son nom ?
Alexander Egorinkov, alias Graf Chocolat, c'est plus facile à prononcer.
T'es trop fort, hein, vraiment, bravo, j'applaudis. Et donc, c'est la PS3 qui, alors il me semble de mémoire, il avait dû trouver le master key de la PS3.
C'est quoi le master key ?
Bah, c'est la clé de cryptage qui permet d'installer et de contrôler mieux sa PlayStation. Mais manque de bol, en faisant ça, il l'a diffusé et il a permis à d'autres de craquer complètement la console et d'en faire ce qu'ils veulent. Mais lui, il se défend d'avoir fait ça pour des causes de piratage, il a fait ça pour des questions d'interopérabilité.
Ah, puisque la PS3, quand elle était sortie, peut-être qu'on installe GNU Linux dessus, et ça avait beaucoup, beaucoup plu aux geeks. Et puis un jour, Sony a dit, en fait, on arrête. Et ils ont fait une mise à jour. Et une fois que cette mise à jour a été installée, c'était plus possible.
Alors, sachant de mémoire aussi, c'est que l'armée américaine utilisait des PS3 avec des GNU Linux dessus. Et que c'était utilisé pour faire de gros calculs intensifs. Et quand Sony a retiré cette capacité, ils ont un peu fait la tête. Mais eux, ils ont le droit à des passe-droits. Que les petits hackers du web, eux, ils doivent se galérer et se palucher le décryptage pour des questions d'interopérabilité.
Plus la prison.
Plus la prison, parce qu'il a perdu son jugement. Et pour payer les frais à Sony, les frais de justice, il faut qu'il sorte $1 million. Et il ne les a pas trouvés, et malgré un appel à dons. Donc si vous avez $1 million, n'hésitez pas, il faut aller sur son site. Mais le pauvre, il risque de visiter les prisons. Alors allemandes peut-être, mais en tout cas, ça va être chaud pour lui.
Article suivant, 20 minutes online, le municipal dit adieu au logiciel libre à Genève, par TPI.
Eh bien oui, une mauvaise nouvelle. Donc, alors, la municipalité de Genève était passée à OpenOffice il y a 4 ans. Et là, 180 degrés, marche arrière, et ils repassent sous du Office pur et dur. Ils préfèrent payer les licences.
Au moins, l'article ne dit pas que ça ne marche pas, qu'OpenOffice ça ne fonctionne pas. Et ils disent que c'est juste une question de maintenabilité. Et...
Oui, soi-disant, ils veulent être pragmatiques. Et puis, ils font la remarque, qui n'est pas fausse du tout, mais qui est tendancieuse dans ces arguments-là, c'est de dire, le logiciel libre, il y a des coûts de maintenance. Oui, bien sûr qu'il y a des coûts de maintenance. Maintenant, est-ce qu'on veut faire de la politique et est-ce qu'on veut être noble dans sa réflexion ou est-ce qu'on veut simplement s'abaisser à ce qui fait plaisir à un éditeur de Redmond ?
Il y a là un coût de maintenance et d'installation aussi sur du logiciel propriétaire. Alors il y a quand même des élus qui ne sont pas contents, il y a notamment Mathias Buschbeck, qui est un écologiste et qui fait remarquer qu'il allait perdre tous ses vieux mails. Alors, chose importante, quand on déploie du logiciel libre, en général on récupère les vieux mails Microsoft, l'inverse ne fonctionne pas.
Ouais, enfin en tout cas, ils vont pas s'embêter avec ça, ils vont faire un reset et un format, va savoir. Mais qui souffre un petit peu dans le passage, ça leur fera les pieds.
Bien fait pour lui, c'est un sale type.
Alors, par ailleurs, toujours en parlant d'Office, donc le monde informatique, Google met son poids dans LibreOffice, qui valide une version entreprise de Jean et Liane. Et donc, c'est une bonne nouvelle, même si c'est toujours des grands mouvements de fond entre big entreprises. Pour mettre leur poids derrière la suite de Pyrotique.
Alors on se souvient qu'il y avait eu ce fork entre OpenOffice qui appartenait à Oracle après la rachat de Sun et LibreOffice, donc les gens de LibreOffice en ayant un petit peu marre de la façon dont Oracle fonctionnait, se sont barrés et puis on dit nous on va faire notre projet dans le coin qui s'appelle LibreOffice, porté par la fondation, la document de fondation. Coup de théâtre il y a quoi, 15 jours peut-être, Oracle dit finalement OpenOffice on n'en veut plus, on le donne à la fondation Apache qui va s'en occuper. Sachant que LibreOffice est sous licence, une licence copyleft, et la fondation Apache fait de la licence Apache qui est une licence non copyleft.
Donc il y en a un qui est compatible envers l'autre, mais pas l'autre, tant pis pour eux. Alors ce que je remarque, c'est qu'il y a d'autres entreprises qui se lancent derrière LibreOffice, ça c'est vraiment bien. Donc non seulement Google, c'est vrai qu'ils ont du fric, c'est important, mais il y a SUSE, Red Hat et la Free Software Foundation, bravo. Et moi ce qui me fait réfléchir à tout ça, derrière tout ça, c'est on se demande quels sont les vrais enjeux pour les acteurs de foutoir, hein, parce que c'est commencé, ça a commencé avec Sun, qui n'était pas apprécié d'IBM, qui avait lancé un projet Eclipse, hein, Eclipse, Sun, tout ça. C'est déjà rigolo, Sun est racheté par Oracle, Oracle s'arrange avec IBM pour qu'IBM parte du projet Apache, finalement, sur Java, finalement, il refile le bébé à Apache, IBM se retrouve sur Apache, sur OpenOffice, enfin, c'est tout un foutoir, il manque plus que Microsoft.
Alors on peut se demander pourquoi Google fait cette déclaration maintenant, justement après que c'est bougé du côté d'OpenOffice. Parce qu'on peut effectivement imaginer que ça leur fasse un petit peu mal au derrière du côté d'Oracle et que voilà. Mais à partir du moment où Oracle lâche le morceau, quelle était la nécessité de le déclarer juste maintenant, sachant que bah on sait que ça les intéressait depuis longtemps, mais qu'ils avaient jusqu'à maintenant rien dit et pas pris de décision. Et donc là ils prennent position après justement un mouvement d'ouverture d'Oracle. Donc c'est quand même un peu bizarre.
Et sachant qu'en plus, dans toujours ces grands mouvements, Oracle accuse Google d'avoir enfreint nombre de ses brevets et même de son droit d'auteur et demande en réparation $1 milliard. Alors, article suivant, hein, des choses intéressantes pour les vacances. Donc, silicone.fr, Remelele 2011, alors RMLL, le livre fait son show à Strasbourg par David Feuget. Donc, RMLL, c'est quoi ?
Les rencontres mondiales du logiciel libre. Donc, bon, c'est surtout, c'est quand même très, très français. Il y a quelques Européens qui sont là. Il y aura Richard Stallman cette année. Hein. Yeah. Mais bon, c'est quand même mondial. Voilà. Mais en tout cas, c'est un super événement. On l'a fréquenté un certain nombre de fois. On y sera cette année. Donc, si vous passez, venez nous dire un petit coucou sur le stand de l'April, ça fera plaisir. Je sais également que nos amis de Divergence seront là au moins une partie de la semaine. Voilà, bah c'est vraiment le meilleur moment de l'année.
Alors, pour nous trouver, c'est pas forcément toujours dans les confs. Des fois, on est juste sur une pelouse en train de faire un tarot. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Les glandeurs sur le côté, ça peut être nous.
Voilà, alors bon, il se passe plein de choses. Hein. T'as enlevé l'article, mais il y a plus de 250 conférences. Il y a des stands, villages associatifs et tout ça. Non, c'est vraiment un événement très sympa. Si vous avez la possibilité de passer, n'hésitez pas.
On a un microbrasseur qui va nous faire une bière libre cette année.
Dernier article maintenant. Alors, encore une fois, Manu, ça ne parle pas de logiciel libre. Je suis très mécontent.
Non, mais celui-là, ce coup-ci, je l'ai mis pour toi. C'était pour te faire plaisir. Ça parle de sociologie, data journalisme, tout ça. Moi, je comprends pas tout, mais toi, tu dois apprécier.
Il faut savoir que chez les sociologues, il y a une insulte terrible. C'est de dire à quelqu'un que son travail est un très bon travail de journalisme. C'est vraiment l'insulte suprême. Alors, article de OVNI, Chicago, le parrain du data journalisme, par Maël Inizan. Alors, c'était un très long article, qui est en fait une interview du sociologue Sylvain Parasi. Donc ça parle d'open data donc, et de journalisme autour de tout ça et de l'importance des bases de données dans le journalisme, donc des choses qui sont émergées aux États-Unis notamment et qu'on commence à voir chez nous. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que finalement la question de la base de données et l'idée de prendre des informations, de les mettre en base de données, c'est une façon de donner forme à l'information. Et la mise en forme d'une information n'est pas neutre et c'est aussi permet de faire remonter des choses pertinentes qu'on ne voit pas autrement.
Et donc là, d'après ce que je comprends, ils l'ont beaucoup utilisé en Amérique, hein, et essentiellement à Chicago pour commencer, mais ça a commencé dans les années 70 sur des petits journalistes, des petits malins, des gars qui étaient dans un coin et qui hackaient le système pour récupérer des informations là où il n'y avait pas d'informations, juste à partir de données brutes. Moi, je trouve ça génial, et la remarque qu'on peut faire et que l'article fait, hein, c'est qu'en France, malheureusement, on ne va pas beaucoup dans cette direction-là, ce qui est un grand dommage, mais il y a quand même des petits gars qui essayent de se lancer sur ces sujets.
Alors on n'y va pas beaucoup, notamment parce que les données ne sont pas ouvertes. Je cite l'exemple d'une étude sur les maisons de retraite qui avait été publiée et qui est issue d'un questionnaire qui a été envoyé aux maisons de retraite. Alors quand on compare ça à la cartographie qui avait été faite à Chicago sur le crime, avec pointé sur une carte tous les lieux où il y avait eu des actes criminels, on comprend bien que quand on est un patron de maison de retraite, le questionnaire, on va le remplir en mettant des choses extrêmement positives et qu'on n'est pas du tout dans la même logique et dans la même dimension. Bon, il cite quand même Regard Citoyen, nos députés.fr, donc qui est ce site monté par des gens qu'on connaît très bien et dont certains sont à l'April, qui permet de voir ce que fait son député. Donc n'hésitez pas à aller là-bas. Hein, et sur ce site-là, vous allez voir votre député, ses présences, quand est-ce qu'il parle, quand est-ce qu'il pose des questions, sur quel sujet, etc. Donc toute une mise en forme à base d'informatique, de base de données, et qui permet de savoir ce qui se passe.
et de savoir quand notre cher député a dormi, voire même s'il a ronflé, ça ne peut pas faire de mal. Moi, ce que je remarque, non, je suis très positif quand même, c'est que je crois que c'est Fillon, le Premier ministre, qui a lancé une initiative d'open data en France. Les administrations vont devoir, par défaut, partager leurs informations de manière gratuite. Et alors, je ne sais pas si c'est vraiment avec du copyleft ou libre, mais en tout cas sans contrainte, sauf à avoir des dérogations qu'ils devront demander explicitement. Et ça, c'est un changement, c'est un changement de ligne assez fort qui va peut-être déboucher sur à long terme sur des vrais usages de ces informations et de ces données. Donc, génial. Et effectivement, les petits gars de la Quadrature aussi font du travail là-dessus, hein, de recoupement d'informations. Notamment, ils veulent recouper les lobbies, il me semble.
Oui, non, c'est Regards Citoyens qui avait lancé ce truc-là, et c'était effectivement très très bien, ça avait fait grincer des dents. Il s'agissait en gros d'une petite application qui mettait côte à côte des scans du journal officiel avec des noms de personnes, et on allait chercher qui étaient ces gens, enfin, on recopiait bêtement, mais c'est un boulot à faire, et du coup on avait des bases de données pour savoir sur tel événement, quel lobby était présent, etc. Et ça c'est des choses que les lobbies n'aiment pas du tout, ils adorent le secret.
Donc, alors pour continuer sur l'article qui est vraiment très long, il y a une remarque qui est forte, et c'est que le journalisme va mal. Alors, je ne suis pas convaincu que le data journalisme va le sauver, parce que c'est un sujet qui est vaste et qui est très compliqué, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important dans lequel il faut qu'il se dirige, il faut qu'il l'utilise. Et à Chicago, il y a des journaux qui se mettent à faire ça, qui ont des problèmes et qui lancent des applications pour les téléphones, où on va pouvoir obtenir à partir de données brutes des informations et les traiter, les analyser, les critiquer. C'est souvent là qu'il y a la valeur ajoutée.
Voilà, en tout cas, c'est une piste très très intéressante, parce que la donnée en elle-même, la façon dont elle est construite, c'est jamais neutre. Au contraire, c'est extrêmement fort. Il y a un truc dans l'actualité actuellement avec notre ministre de l'Intérieur qui avait fait des grandes déclarations fracassantes sur l'échec scolaire et l'origine, enfin le fait que les enfants soient étrangers. Il s'était fait reprendre par des journalistes qui disaient non, c'est pas ça, c'est beaucoup moins. Il s'appuyait sur un rapport de l'INSEE. Le patron de l'INSEE était extrêmement réticent à aller commenter tout ça, évidemment, on le comprend bien. Il a fallu que ses syndicats lui tapent dessus pour qu'ils disent qu'effectivement le ministre racontait n'importe quoi. Donc cette question de la donnée, de comment on la construit et de comment on la diffuse, quelque chose d'absolument fondamental.
Alors, t'as pas donné le résultat. C'était lui, le ministre, assuré que c'était 2/3 de l'échec scolaire qui était lié aux immigrés. Et finalement, l'INSEE a dit que c'était combien ?
16%. Bon, Manu, bonne semaine. Au revoir.
Et voilà, et bien à la prochaine. Et salut Divergence.
On remercie Luc Fievier et Emmanuel Charpentier. C'était la revue de presse de l'April. Une revue de presse qui va probablement, à un moment donné, prendre ses congés, elle aussi, peut-être en aurons-nous pendant le courant du mois de juillet. Pour l'heure, de la musique avec le groupe Emerald Park. Ils sont de Malmö en Suède et ont sorti en 2010 l'album For Tomorrow, un groupe qui se produit depuis 4 ans avec un album qui s'appelait Sadness Within, et on écoute tout de suite un extrait intitulé Oum.
I've been
Un prénom, un titre, le titre des Suédois d'Emerald Park qui nous accompagne ce soir. C'est en licence Creative Commons by NCND 3.0. Emmanuel Jacquet est au téléphone avec nous. Il va nous parler des 250 conférences, non, allez, des grands rendez-vous, des 14 grands thèmes du village associatif, des rencontres grand public, tout ça à partir du 9 des rencontres mondiales du logiciel libre qui se tiennent cette année à Strasbourg et qui compte aussi un festival des arts numériques, des personnalités comme Richard Stallman, Michi Choudhary, directeur des programmes internationaux au Software Freedom Law Center, ou Jérémy Zimmermann de la Quadrature du Net. Tous ces rendez-vous, en tout cas, il va tenter d'en parler avec nous, car Emmanuel Jacquet, on lui tire notre chapeau, n'est pas un spécialiste de cet exercice difficile.
Oui, bonsoir à tous.
Alors, les rencontres mondiales, on le disait, on l'a abondamment dit, c'est du 9 au 14 juillet à Strasbourg cette année. Des rencontres qui, comme d'habitude, se déclinent autour de grands thèmes. Ils sont à peu près 14 pour cette année. Le moment qui est souvent fort attendu, c'est la table ronde politique. Est-ce qu'on a plus d'informations qu'il y a 15 jours sur cette table ronde ?
Eh bien, non, pas beaucoup, beaucoup, effectivement. C'est un sujet qui est encore en cours de montage. Ce qui est sûr, c'est qu'on va organiser un tour de tous les sujets chauds européens et autour de tout ce qui est droit d'auteur, des libertés numériques et un petit peu tout ce qui touche au monde du libre. Par contre, on n'a pas encore, je ne peux pas encore vous donner de détails sur les intervenants.
Alors c'est souvent le cas, parce que c'est vrai que les élus se font souvent attendre sur ces questions un petit peu épineuses et difficiles qu'ils n'ont pas tous le bonheur de pouvoir maîtriser avec les bons arguments. C'est traditionnellement un petit peu la surprise, l'organisation de cette table ronde politique. Mais parmi les 14 grands thèmes, il y a santé, accessibilité et handicap. Santé, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de logiciels qui ont fait leur trou dans le monde de la santé. Je pense notamment à MedinTux pour les médecins généralistes. Quel est le grand rendez-vous sur ce thème santé, accessibilité et handicap cette année ?
Alors oui, c'est vrai que santé, c'est un des thèmes qu'on a essayé de remettre en avant cette année. On a, entre autres, cette année, on a un petit peu changé le format sur la globalité des conférences, c'est-à-dire qu'on aura trois plénières sur les trois matins du 11, 12, 13. Et une des plénières, effectivement la première, sera entre autres animée par la conférence du docteur Ratib, qui est médecin-chef aux hôpitaux universitaires de Genève, mmh. et qui viendra nous parler de l'imagerie médicale avec un logiciel qui s'appelle Osirix.
Oui.
Qui est une révolution de l'imagerie médicale libre. Donc ça promet déjà une première conférence assez intéressante dès le premier jour.
Voilà, la municipalité de Genève qui, on l'a appris dans la revue de presse de l'April du jour, a fait marche arrière sur l'utilisation d'OpenOffice et est revenue à la suite Office. Mais en tout cas, voilà, comme quoi les Suisses, eux aussi, sont divisés. Un autre thème, c'est culture et art libre. Alors, outre le Festival des arts numériques lui-même, quel rendez-vous majeur, quel zoom, quel focus sur ce thème-là ?
Eh bien, outre le festival, on va essayer d'animer ce thème culture cette année autour d'une démarche un peu originale qui est d'utiliser tout ce qui va être fait sur les journées grand public, puisque les journées grand public, en fait, seront des ateliers autour de la vidéo, de l'image, du texte. Et tout le contenu qui sera produit lors de ces journées, on aimerait en réaliser une œuvre numérique qui va être, entre autres, développée pendant les conférences et pendant les ateliers qui seront autour du thème culture et art libre. Mais entre autres, on aura des conférenciers qu'on retrouve un petit peu tous les ans ou qui font des choses assez géniales, comme Laurent Bellegarde de Elprod, qui viendra nous faire des ateliers sur le montage audio-vidéo. Et ça fait plaisir que des gens comme ça soient à Strasbourg cette année. Donc voilà.
On peut noter aussi la présence de Valentin Villeneuve qui doit parler à nos Montpelliérains, puisque c'était un opéra en licence opéra libre. Une mise en image, une mise en scène d'une bande dessinée de Lewis Trondheim.
Développé sur logiciel libre, enfin dessiné sur logiciel libre uniquement.
et la partition est dans le libre. C'est ça qui est intéressant, c'est un opéra libre.
Un autre thème, c'est le thème communauté. Alors dans le monde du logiciel libre, le mot communauté a une importance toute particulière, puisque c'est souvent la communauté qui fait vivre le logiciel libre. Quel rendez-vous majeur ?
Dans la communauté, il y a tout un tas de choses, mais cette année, il faut quand même qu'on note qu'on va surtout fêter les 10 ans de Framasoft. Et c'est entre autres eux qui viendront faire des conférences pour présenter les 10 ans de projet Framasoft avec Alexis Kaufmann et Pierre-Yves Gosset qui seront là de la sorte tout au long de la manifestation. Et voilà, ça nous fait plaisir qu'ils soient là aussi pour ces 10 ans. Après, il y aura, comme souvent, d'autres conférences autour de l'organisation des communautés et des choses comme ça. Donc, voilà.
Voilà, et puis Framasoft qui organisera une signature en présence de quelques auteurs, puisque Framasoft, depuis quelques temps, publie ses Framabooks, justement. Donc ce sera l'occasion d'un moment assez convivial avec les auteurs des Framabooks. Après le thème administration, politique publique, collectivité territoriale, il y a sciences et recherche, enseignement et éducation populaire. L'éducation populaire qui est au cœur, ainsi que la recherche d'ailleurs, au cœur un petit peu du logiciel libre.
Oui, bien sûr. Comme chaque année, c'est un thème en fait qui va être assez important puisqu'il va... occuper pas moins de deux lieux, un amphithéâtre et une autre salle. Et il sera d'ailleurs l'objet de la deuxième plénière qui aura lieu le mardi avec Richard Stallman qu'on accueille et qui vient des États-Unis et qui va en fait nous faire une conférence sur l'historique, l'histoire du logiciel libre et sa philosophie orientée avec l'éducation. Ça sera le deuxième moment fort, des plénières.
Voilà, les conférences de Richard Stallman sont toujours des moments assez intenses.
Ce sera le mardi 12 juillet, justement le matin à 9h40.
Voilà, c'est ça.
Alors ensuite, il y a des thèmes de pur geek, comme l'administration, système, le développement, les systèmes embarqués, le matériel libre. Là, des rendez-vous attendus par les développeurs, mais aussi par une certaine partie du public.
Oui, bien sûr, c'est quand même les thèmes techniques qui font le cœur historique des rencontres. Ça serait trop long de détailler un petit peu tout ce qu'il y a, mais on va accueillir par exemple Hackable Devices qui va faire des ateliers autour de tout ce qui est embarqué. J'en passe, il y en a énormément, mais c'est effectivement beaucoup de conférences qui vont être assez intéressantes, entre autres le thème développement qui sera dans un des plus grands amphis.
Et puis notamment, peut-être que les gens ont l'occasion de se fabriquer une petite télécommande TV Big On pour éteindre les téléviseurs à la volée.
Ah, ça me fait penser à quelqu'un. On peut noter aussi, par exemple, dans ce thème, une reprise sur incident, comment établir son plan de reprise, justement, informatique, si tout brûle dans la société, dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. À mon avis, c'est une conférence que j'ai moi-même marquée sur mon application, tu sais, l'application...
L'application Android.
Android, évidemment. À mettre à jour puisqu'il faut mettre à jour son programme puisqu'il y a des mouvements et donc comme ça on a tout sous la main.
Et puis système d'exploitation est un des 14 thèmes de ces rencontres mondiales du logiciel libre. Les systèmes d'exploitation sous Linux ils sont tous cousins mais ils sont plus nombreux que dans le monde du propriétaire. J'imagine que les plus grands noms seront présents, que ce soit Ubuntu, Mandriva, j'en passe, et d'autres.
Oui, on aura aussi, en parallèle des conférences, on aura aussi tous ces associations-là seront présentes sur le village, dans une grande allée qui va... où il y aura toutes les distributions Magea, Debian, les Ubuntu effectivement sera là et d'autres sont encore là.
Puis sécurité et Internet sont des termes qui sont jumeaux, on va dire, par les temps qui courent, qui sont d'ailleurs au cœur des problématiques de nos législateurs pleins de mauvaises idées. C'est des thèmes assez concomitants, sécurité et Internet.
Oui, alors sécurité et Internet, effectivement. Internet, entre autres, et sur ce domaine-là, on va accueillir Jérémy Zimmermann qui va nous parler de Internet et partage, et de pourquoi le partage est le cœur du logiciel libre et d'Internet. Mais aussi, on peut compter sur la présence de Benjamin Bayard qui va nous parler de la décentralisation et de tout ce qui est lié à Internet en termes de décentralisation.
Mmh.
Et c'est en fait sur ce même thème, ou plutôt sur un thème plutôt parallèle, mais qui est le droit du libre, qu'on va accueillir d'autres conférenciers, entre autres Michi Choudhary qui vient de la SFLC d'Inde, et Carlo Piana de la FSF Europe, entre autres pour nous parler de tout ce qui est... antitrust et puis de parler de la globalisation ou de la mondialisation plutôt du logiciel libre, et donc ça rejoint ces notions de partage et d'internet décentralisé.
Alors justement, la question le thème droit du libre est un thème qui fait son entrée cette année au programme des RMLL.
Oui, traditionnellement les questions juridiques sont au cœur de tout logiciel libre qui sont basés sur des licences libres, et donc cette année on a voulu en fait mettre en avant ces questions là et entre autres on va retrouver une table ronde avec effectivement Michi Choudhary, Carlo Piana et Richard Stallman, et des conférences autour de ce thème plutôt juridique.
À noter aussi la présence de Belges qui nous raconteront Adopi.be, comment la Belgique veut importer Adopi dans son pays. Ça va être un point de vue assez intéressant par rapport à celui que l'on connaît en France.
Voilà, on se rend bien compte qu'effectivement, la Belgique est un petit peu à la traîne ou à la ramasse par rapport à Internet, avec des tarifs prohibitifs, des prestations
complètement... monopoles.
Des monopoles et des prestations complètement filoutées ou filoutes ou carrément des escroqueries organisées. Mais bon, c'est vrai qu'ils n'ont plus de gouvernement non plus. C'est un peu le bazar, on va dire, dans le pays de la bière trappiste. Mais
ça tourne. L'État tourne.
Oui, l'État tourne. Il tourne. On ne sait pas s'il révolutionne, mais en tout cas, il tourne.
Pas de gouvernement, mais l'État tourne.
Et puis au-delà de tous ces thèmes qui sont nombreux et pour lesquels évidemment j'invite les personnes à se rendre sur 2011.rmll.info, il y a aussi des rendez-vous autour de la culture et de l'art libre, notamment à travers ce festival des arts numériques libres auquel vous avez voulu donner une dimension de festival cette année et plus simplement on va dire les nocturnes des rencontres mondiales.
Oui, voilà, c'est une tendance qu'on a déjà constatée l'année dernière. On souhaite proposer en fait aux participants un vrai festival avec de la musique libre, de la musique faite avec des logiciels libres. Et puis on aura aussi des invités comme l'Arsène 3G qui vont nous faire de la projection sur bâtiment. La projection sur bâtiment, donc faite avec des logiciels libres. Et la démarche, en fait, nous intéressait à la fois parce que c'est produit avec du logiciel libre, parce que le contenu aussi est libre, et ça nous donne, en fait, l'occasion de rassembler tout le monde autour de moments un petit peu plus détendus le soir après les conférences.
Et puis de faire en sorte que finalement le public le plus large, et pas seulement celui des rencontres mondiales, viennent se mêler à cette manifestation.
Oui, c'est effectivement un moyen aussi de pouvoir rassembler le monde geek et un peu barbu peut-être, mais toujours très sympathique, avec des gens qui viennent de l'extérieur et qui viennent découvrir la liberté au travers de l'art.
Le challenge pour nous sera de retransmettre des sessions de live coding à la radio, mais je ne sais pas si ce sera réellement pertinent. Nous verrons sur place. On peut peut-être aussi dire un mot sur le fait que cette année, les rencontres mondiales du logiciel libre aient eu un espèce de prélude sur l'île de la Réunion.
Oui, c'est effectivement la première année où le concept de rencontre du logiciel libre avec des conférences, un village, se décline en une petite sœur qui est à l'île de la Réunion, à Saint-Vincent, qui va se dérouler là ce week-end du
1er au 3, oui.
Et le programme est visible en ligne sur leur site web, mais il y a des choses très intéressantes. On peut noter que des gens comme Thierry Steuerd sont allés porter la bonne parole des formats ouverts, par exemple, ou Jean Perratou pour le thème éducation, enfin, voilà, donc ça nous fait plaisir qu'il y ait un premier jet cette année. On espère que ces rencontres décentralisées pourront se pérenniser l'année prochaine.
Oui, c'était juste pour dire, avant les cultures numériques, des petits événements comme ça, juste pour se mettre en bouche aussi, avec quelques paires de knack et de la bière, évidemment, bien libre pour l'occasion, une key signing party, alors pour les adeptes de ceux qui ont des numéros en bas du badge, par exemple, ils pourront donc échanger des clés pour signer leur courrier électronique, leurs documents, etc. Et donc, de visu, voir que cette clé correspond bien à la bonne personne, et donc être sûr que quand on signe pour quelqu'un ou quand on le crypte pour quelqu'un, que c'est ce quelqu'un en particulier qui le lit et pas quelqu'un d'autre.
Voilà, une key signing party à laquelle je ne sais pas si je pourrais prendre place. Ça fait des années que j'en entends parler, que je vois faire, mais que je ne bite rien à ça.
Ah bah, tu auras la chance, puisque justement avec un autre collègue, on organise ça. On a décidé de le mettre sur quatre soirées, deux à la place Broglie pendant les journées grand public et deux aussi pendant donc la suite des rencontres mondiales du logiciel libre. Comme ça, même sur quatre événements, on doit pouvoir y venir à une. En plus, c'est à 19h30.
Ah bah alors voilà, qui va permettre à mon cerveau ramolli de comprendre quelque chose à ces clés GPG qui m'angoisse sans arrêt, mais c'est une autre histoire que nous ne compterons pas ce soir. On va remercier Emmanuel Jacquet de nous avoir accompagnés pour tenter de ce survol de l'immense programmation des 12e rencontres mondiales du logiciel libre. Emmanuel, on vous souhaite à tous beaucoup de courage pour les jours qui restent, qui, à mon avis, vont être baignés de sueur et de larmes et de douleurs.
On n'espère pas trop quand même, et bienvenue à Strasbourg, on vous attend et à bientôt.
On arrive,
merci beaucoup Emmanuel.
Merci Manu.
Et durant toutes ces 12e rencontres mondiales du logiciel libre sur radio.rmll.info, vous pourrez avoir des programmes en continu. Et puis si vous, pour les auditeurs du 93.9 en FM sur Montpellier, ce sera de 13 à 14 heures chaque jour. Et puis plus ponctuellement en soirée pour retransmettre d'éventuelles performances, concerts ou live coding sessions. Mais le live coding à la radio, je ne sais pas ce que ça peut donner. On en aura le cœur net dans le courant de la semaine prochaine, donc. À présent, c'est pas à Strasbourg que l'on s'en va, mais à Istanbul. Second extrait d'Emerald Park que vous pouvez retrouver sur leur site emeraldmusic.net ou sur la plateforme Jamendo sur laquelle vous pouvez télécharger tous ces titres.
Istanbul, des Suédois de Emerald Park, en licence Creative Commons by NCND 3.0. Les agendas du libre pour tout doucement eh bien, refermer cette émission. Pour la France, eh bien, c'est évidemment les rencontres mondiales du logiciel libre qui, à partir du 9, vont tenir le haut du pavé sur cet agenda du libre à Strasbourg. Mais que ça ne nous empêche pas de bouder notre plaisir d'aller au Point Libre de Montpellier demain, 1er juillet, ou à Annecy, à l'université d'été du CMS Libre Typo 3, un atelier GNU Linux à Alger pour une install partie 3 le 2 juillet, à Paris les premiers samedis du libre, à Witzenheim la réunion du club Linux, où eh bien, le 7 à Paris il y aura les first jeudis par Linux, ou à Poitiers les jeudis du libre de l'APP 31. Agenda du libre.org pour plus de renseignements. Et puis bah, comme il nous reste un petit peu de temps, on va se réécouter un extrait. Là, c'est plus Istanbul, mais Pasadena, auquel Emerald Park nous convie, ce qui nous change de la Suède et de ses frimas.
Yeah.
Toujours en licence Creative Commons by NCND 3.0, c'était Pasadena du groupe Emerald Park. Poursuivons ces injadas du libre avec bien du côté de la Belgique, ma foi, pas grand chose. Avec le 2, un barbecue Interlug à Boussu. Ça, c'est pour, c'est pour agendadulibre.be. Et pour, pour le reste du mois de juillet, c'est le désert, mon frère. Et puis l'agendadulibre.qc.ca. Avec quelques petits rendez-vous à se mettre tout de même sous la dent, avec le 5 juillet un Linux Meetup à Montréal, tandis que dans la région de Québec, ce sera aussi un Linux Meetup qui durera pour Québec un petit moment, puisque le 9 et le 10, tandis qu'à Montréal se tiendra le WordCamp Montréal 2011, ce sera la fin de la semaine du logiciel libre à Montréal aussi. Donc pas mal de choses alors que les RMLL démarreront. agendadulibre.qc.ca.be ou .org, vous en avez plus qu'il ne vous en faut. Fin de cette 116e divergence numérique, dernière de la saison 8. On vous souhaite une semaine bien libre. À suivre donc Radio RMLL du 9 au 14 juillet. Et on vous salue tous, que vous nous écoutiez sur les ondes de Divergence FM, sur celle de Radio Escapade 104.1, 103.3, 102.2 à la salle, ou de 88.3. Et la fréquence de CKIA à Québec, et nos amis de la Voix du Libre que l'on se réjouit de retrouver à Strasbourg. On se quitte donc là, Pascal, et on se retrouve évidemment à Strasbourg, parce que toi tu vas y aller super tôt.
Oui, j'y pars dès le 4 juillet pour monter le réseau, préparer tout ça, et puis les journées grand public le 9 et 10, et ensuite c'est la suite, c'est le 11 au 14.
La petite semaine des 250 conférences. On se quitte avec un dernier titre d'Emerald Park, c'est le titre éponyme de leur album sorti en 2010, For Tomorrow, pour demain. Et pour aujourd'hui, c'est fini.
Oui, c'est aussi mon petit coup de cœur, fortement.